podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Marlier.
Bienvenue à tous pour ce nouveau dossier de Frontières des séries. En 2009, Canal+, dans sa case création originale, propose une seconde série après le succès retentissant de Braco. Changement de décor cette fois, car c'est dans un des quartiers les plus emblématiques de Paris que la série Pigalle la nuit prend ses quartiers. En 8 épisodes de 52 minutes, la série d'Hervé Admar, coécrite avec Marc Herpoux, est un drame dans lequel nous suivrons plusieurs destins contrariés et entrelacés de personnages aux prises d'un environnement aussi sulfureux que fascinant. Thomas, tout d'abord, trader à la City, qui lors d'un séjour à Paris aperçoit sa jeune sœur Emma, qu'il n'a plus vue depuis 2 ans, sur la scène d'un spectacle d'effeuillage dans le bien nommé club Le Folies. Décidé à découvrir le nouveau destin d'Emma, Thomas se butera pourtant à la disparition soudaine et mystérieuse de cette dernière et se retrouvera bien malgré lui lié au conflit qui oppose Nadir Zeynoun, le patron du Folies, aux étranges patrons d'un nouveau club concurrent sur le point d'ouvrir, le Paradise. Au casting, des têtes bien connu puisqu'on retrouve Jalil Lespers et Armel Deutsch dans les rôles de Thomas et Emma, Simon Abkarian en patron du Folies, mais aussi Sarah Martins, Catherine Mouchet et Eric Ruff. Malgré un joli succès d'audience et des critiques dithyrambiques de la presse, Canal+ n'a pas souhaité prolonger l'aventure d'une seconde saison, bien qu'initialement prévue. Pour nous en parler aujourd'hui, Tilman Villette, bonjour.
Bonjour.
Et pour nous accompagner, Sarah Sepulcre, bonjour.
Bonjour.
Tilman, pour quelles raisons, à ton avis, malgré tous les atouts de Pigalle la nuit, cette série s'est-elle arrêtée de manière abrupte après une seule et unique saison?
Je crois qu'il y a plusieurs raisons qu'on pourrait apporter en fait à cette décision de Canal+. Tout d'abord, le fait que il y a une clôture à cette première saison, donc on apprend ce qu'il est advenu d'Emma. On sait également donc quel sera l'avenir du Folies et du Paradise. Ensuite, je crois aussi qu'on avait fait un peu le tour à la fin de cette première saison du quartier de Pigalle, qui était évidemment un sujet assez intéressant malgré tout. Mais ils auraient peut-être pu lancer une série du même style, mais éventuellement dans un autre quartier de Paris, parce que voilà, je crois qu'on avait vu un peu tout ce qu'il y avait à voir. Ensuite, il y avait des scénarios qui ont été proposés à Canal+, et finalement, Canal+ n'a pas souhaité en fait reconduire parce qu'il n'avait pas été convaincu non plus par les scénarios donc de Hervé Admar et Marc Herpoux.
Ce qui est une bonne chose finalement, parce qu'allonger la sauce pour allonger la sauce...
Quand ça ne sert à rien, ouais. Je pense que voilà, il ne faut pas non plus s'entêter. Maintenant, donc, Hervé Admar et Marc Herpoux, ce n'est pas non plus des inconnus, puisqu'ils avaient déjà en fait réalisé la série Les Oubliés en 2007 avec Jacques Gamblin, une série qui avait eu son petit succès aussi à l'époque et qui avait emballé la critique donc, sur des jeunes filles disparues et donc l'enquête policière qui découlait de cela.
C'était pour France 3.
À l'issue donc, de la diffusion donc, de la série en 2007, ils ont une idée donc de créer une série sur le quartier de Pigalle. Ils ont décidé donc de s'immerger dans le quartier en vivant carrément pendant plusieurs mois dans un quartier quand même assez particulier de Paris avec une population aussi assez bigarrée et malgré tout aussi très changeante.
Chérie, ce soir je vais au sex shop. Ah bon ? Oui, c'est du travail.
Il voulait absolument s'imprégner et voir les visages des personnages et pouvoir utiliser ces éléments-là. Je pense qu'on peut joindre le plaisir au travail à certains moments aussi. Et leur postulat de départ, c'était vraiment de pouvoir donc, et là j'utilise leurs mots, montrer que le mythe de Pigalle, c'est ce qui permet à ses habitants de survivre à la réalité. Et c'est vrai que dans Pigalle la nuit, on a effectivement pas mal de personnages qui seront torturés, qui auront évidemment pas mal de problèmes, que ça soit lié au fait qu'ils travaillent à Pigalle ou bien qu'ils ont leur vie là-bas ou qu'ils découvrent Pigalle, ce qui va leur amener à tous pas mal de problèmes.
Je trouve que ça sent qu'ils ont passé du temps à Pigalle ou que c'était des gens qui connaissaient Pigalle. Et par 2-3 éléments dans la série, je trouve qu'on sent que c'est pas 2 Marseillais qui se sont dit « tiens, on va écrire sur ce quartier ». Et ça, c'est quand même l'élément bien fait, je trouve, dans cette série.
C'est un élément qui, je pense, permet de mettre une ambiance assez particulière. On ne voit pas forcément le côté de Pigalle, de cartes postales, on va pas le Moulin Rouge, on les entreaperçoit évidemment sur certains plans de coupe, mais on a aussi les petites ruelles cradingues, on a également les sex shops un peu glauques, on a les clubs qui parfois sont des très beaux clubs malgré tout, et il y en a d'autres aussi qui sont beaucoup plus sordides. On a des fins de journée qui se terminent dans des snacks avec des pitas, des durum, ce genre de choses. Et donc voilà, on est vraiment dans une sorte d'approche très réaliste du quartier de Pigalle, loin des cartes postales, loin du rêve que le touriste pourrait se faire de ce quartier-là.
C'est pas 100% glamour.
Du tout. Maintenant, ça j'y reviendrai peut-être par après, on n'est pas non plus dans une série méga glauque ou une série pour se rincer l'œil, même si c'est Canal+. Il n'y a pas non plus du sexe à gogo. La série va commencer donc sur l'histoire de Thomas, donc le trader qui revient à Paris pour des affaires, et puis qui va aller s'encanailler à Pigalle avec donc des clients avec qui il aura signé un juteux contrat. Par hasard, il va aux Folies et il va voir un show, le show de la mariée, où une mariée se déshabille sur de la musique un peu électronique. Et il va reconnaître sa sœur, donc sa sœur Emma, qu'il n'a plus vue depuis 2 ans, suite au décès de leurs parents. Lui est parti vivre à Londres, elle est restée à Paris. C'est une jeune femme qui a toujours été un peu plus libérée, un peu plus excentrique aussi que lui. Et en la revoyant sur scène, évidemment, ça va pas trop lui faire plaisir. Et il va vouloir aller la retrouver dans les loges. Seulement, en allant dans les loges, il se rend compte que Emma n'est plus là. Alors ça va être vraiment, je dirais, le fil rouge de cette saison, puisque durant toute la saison, Thomas va rechercher Emma. Et c'est durant cette recherche-là qu'il va être amené à rencontrer d'autres personnages, et c'est lui aussi, en finale, qui va nous introduire à ces personnages, et qui va nous amener aussi vers de nouvelles intrigues, de sous-intrigues avec donc les personnages secondaires.
Ce qui est intéressant, c'est que ce gars, en fait, il démarre comme nous. C'est-à-dire que moi, tu me parles de Pigalle, et forcément, j'ai des stéréotypes qui viennent sur... Ces filles qui travaillent dans ces clubs, etc., elles doivent sûrement être sauvées, sûrement qu'elles sont primées, etc. Et lui démarre sur ces éléments-là, ce qui nous permet aussi d'entrer dans cette série de manière assez intéressante et parfois de conforter certaines choses et parfois d'infirmer certaines choses qu'on pourrait croire.
Ça a vraiment été quelque chose d'assez bien fait, en tout cas cette introduction avec le personnage de Thomas. Bon, déjà, il a un œil un peu vierge par rapport à tout ça, et on va remarquer dans les premiers épisodes aussi qu'il va se faire un peu happer par ce monde. Donc il va, en recherchant Emma, rentrer dans des... bar un peu glauque, un peu sordide, dans lesquels on va lui dire « Ah oui, on connaît Emma », mais simplement pour le faire rentrer et pouvoir lui soutirer un maximum d'argent. Donc, il va décider de payer un verre à une hôtesse pour qu'elle lui donne des informations. Or, cette fille ne sait absolument rien, et on va lui facturer le verre 500 €. Si on ne paye pas, on lui casse la gueule avec des gorilles qui sont derrière. Donc, voilà, ça, c'est tout le côté un peu aussi... nouveauté de Pigalle. Et à côté de ça, il va rencontrer aussi d'autres personnages qui vont être un peu plus surprenants, des personnages avec peut-être plus d'humanité qu'a priori, et surtout peut-être un peu plus complexes que leur image de prime abord pouvait le laisser penser.
En somme, vous voulez ouvrir un club échangiste, un cercle érotique, un cercle très privé, très discret, un club qui puisse s'inscrire dans l'écosystème de Pigalle sans le mettre en danger.
Je comprends pas.
Je vous explique. Moi, je suis pour l'évolution, pas pour la révolution. Je pense que les gens du paradis, ils ont vu trop grand. Ouvrir un endroit plus petit, plus discret pour les gens qui ont beaucoup d'argent, ça oui. Mais ouvrir un club comme ça, sur 1000 mètres carrés, c'est pas bon, c'est dangereux pour le quartier.
Mais comment ça, dangereux?
Il y a un risque. Le risque de se faire envahir par les bobos, par les branchés, par les people. Et 6 mois plus tard, par le dernier attaquant de merde du PSG, qui saura plus quoi faire de son pognon, qui viendra ouvrir un bar à la con dans le quartier. Ça fera encore plus de bobos, encore plus de gens bien propres sur eux, qui en auront rien à foutre d'acheter un kebab ou d'aller mater un film de cul. Non, je vous le dis, et je vous le prédis, si c'est comme ça, dans 2 ans, les premiers bars à putes, ils ferment. Après, ça sera le tour des petits sex shops. Et vous savez ce qui va se passer? Hein? Ben, je vais vous le dire, moi, ce qui va se passer. Ça va faire monter le prix de la pierre. Ils vont rénover tout et n'importe quoi. Et nous, dans 5 ans, on n'existe plus. C'est vrai, regardez ce qui s'est passé rue Saint-Denis. Non, le cœur de Pigalle, c'est pas ça. Nous, ça fait 30 ans qu'on cultive notre identité. 30 ans, c'est pas rien, 30 ans. Nous, c'est quoi? Nous, c'est les touristes. Nous, c'est le couple de petits jeunes qui veut s'acheter un sextoy. C'est l'habitué du coin qui va mater son film de cul, un bon kebab à la main. C'est ça, notre Pigalle à nous. C'est un Pigalle populaire, bon enfant, un Pigalle accueillant. C'est ça qu'il faut travailler, c'est ça qu'il faut viser. Un Montmartre de cul.
Vous nous parlez long terme, monsieur Zenoun, mais nous, on est des banquiers.
Ben, j'ai remarqué, oui.
Donc, nous, tout ce qui nous intéresse, c'est est-ce que votre chiffre d'affaires va baisser? C'est ça qui nous intéresse. Alors, est-ce que le Club Paradise, oui ou non, est un danger pour vous?
Si vous m'aidez, non.
Et la mercerie, vous avez signé?
La mercerie,
Elle est à moi.
Bon, allez, ok, on vous suit.
Parce que Pigalle, ça raconte ça aussi, un peu le choc de l'ancien et du moderne, et de est-ce qu'il faut rénover Pigalle ou garder le Pigalle tel qu'on le connaît, ou qu'on pense le connaître.
Mais voilà, en fait, le personnage qu'on vient d'entendre, c'est donc Nadir Zainoun, qui est le patron du Folies, donc l'ancien club, qui lui a une conception, en fait, encore un peu passéiste. Il a l'impression que tout se passe bien tel quel, donc les gens, bah, Pigalle c'est fait pour les touristes, mais c'est fait aussi pour les gens qui veulent y travailler, c'est aussi pour bah, parfois quelques personnes qui se sentent entre guillemets en dehors de la société et qui trouvent là bah, leur semblable malgré tout. C'est également pour simplement le mari qui décide d'aller chercher quelques sex toys pour pimenter sa vie, mais qui veut aussi peut-être aller se rincer l'œil parce que dans sa vie à lui c'est pas génial. Donc il a une conception encore un peu passiste, et évidemment ça se bute à cette ouverture du nouveau club qui est une sorte de méga dancing, le Paradise, qui va bientôt donc ouvrir ses portes. Et c'est vrai que donc Nadir a peur également donc de la concurrence que ce club pourrait avoir, surtout qu'il comprend assez rapidement que les patrons de ce nouveau club ont probablement un passé avec lui aussi. Donc on voit qu'il y a quand même, dans les rapports au début, en tant que spectateur on ne comprend pas tout de suite, on voit qu'il y a quand même un passé par rapport donc à ces patrons de club, cette concurrence, ces rivalités. Et on apprendra d'ailleurs donc que le nouveau patron du club, qui est donc interprété par Eric Ruff, Dimitri, est revenu à Pigalle pour ouvrir son club. Il a d'autres personnes derrière lui. Ça peut avoir un peu penser parfois à une sorte de réseau mafieux, de réseau criminel. Et il a d'autres idées que simplement ouvrir un club. Il a une sorte de revanche à prendre aussi sur la vie.
De ce que tu dis, ça fait deux histoires quand même assez denses, assez complexes. Est-ce que au terme de cette seule et unique saison, l'ensemble des intrigues sont clôturées ou bien il y a des choses qui vont rester en suspens ?
Eh bien, les deux intrigues sont clôturées, néanmoins elles sont un peu reliées de manière un peu artificielle. C'est-à-dire que Thomas aura également affaire au personnage donc de Dimitri, le nouveau patron du Paradise, au départ par le biais d'une scène un peu fortuite puisqu'ils se rencontrent dans un bar, le moment où Thomas en fait se fait arnaquer par l'hôtesse qui lui facture 500 euros son verre. Et il va également apprendre que Emma aurait eu une relation avec ce fameux Dimitri et aurait éventuellement voulu quitter le Folies pour aller travailler au Paradise. Évidemment, dans cette enquête que Thomas essaie de mener pour retrouver sa sœur, il va soupçonner quand même très rapidement le fait que Dimitri puisse avoir quelque chose à voir par rapport à ça. Est-ce que Dimitri aurait tué sa sœur ? Est-ce que sa sœur aurait vu des choses qu'elle n'aurait pas dû voir ? Est-ce qu'éventuellement elle est simplement cachée par Dimitri à Pigalle, ailleurs, hors Pigalle ? On avance progressivement de cette manière-là, tout en suivant aussi bah, ce conflit qui oppose le patron du ancien club et du nouveau club. C'est relié de manière évidemment un peu artificielle, surtout qu'en plus Thomas a aussi des rapports avec le Nadir à plusieurs reprises. On arrive quand même à une clôture malgré tout, mais avec énormément de coïncidences, énormément de Deus Ex Machina, et on se dit à un moment donné, ouais, bon, on veut bien que Pigalle ça soit pas un quartier gigantesque, mais à ce point-là que tout le monde se connaisse et que tout le monde ait une sorte de lien ensemble, c'est parfois un peu gros.
Ceci dit, au fil de la saison, ça paraît pas lourd d'avoir ces deux intrigues qui sont effectivement parfois un peu complexes, mais quand on regarde la saison, on se dit ok, celle-là avance, et finalement, ça, voilà, c'est vrai, tu as raison, c'est parfois plus la clôture en tant que telle qui pose des soucis.
En fait, à proprement parler, pour moi, ces histoires ont été greffées d'une manière artificielle pour présenter le quartier de Pigalle, qui est selon moi le véritable personnage et la chose la plus importante en fait dans cette série. Évidemment, c'est intéressant de voir autre chose que le quotidien de ces gens-là, donc il y a quand même besoin d'avoir une sorte d'intrigue, d'rebondissement, mais c'est pas là que se trouve, je pense, le sel de Pigalle la nuit. Et d'ailleurs, ce qui permet justement de pouvoir trouver que tout s'enchaîne plus ou moins bien, c'est le fait qu'il y ait d'autres personnages également, et surtout les personnages secondaires, qui sont à certains moments bien plus intéressants que les personnages principaux avec leurs petits problèmes de rivalité ou de sœurs disparues.
D'ailleurs, il y a eu presque un espèce de mensonge sur le cadeau qu'on nous faisait, parce que je me souviens moi d'avoir entendu parler du Pigalle, de la nuit, du monde sulfureux, puis finalement c'est pas tout à fait ça que la série raconte, ça se passe dans ce milieu entre autres.
Non, moi je m'attendais aussi à une sorte de thriller sulfureux un peu policier, et on n'est pas du tout dans ce style-là. D'ailleurs, même à l'image, je pense que ça se voit comme assez rapidement. Évidemment, bon, on aura des seins à l'écran, on aura des danses un peu lascives, mais on n'est pas non plus dans quelque chose de non plus révolutionnaire, non plus de pornographique. Voilà, ça reste quand même très sage, et on n'est peut-être plus dans une approche de cinéma d'art et essai qui décide de s'encanailler dans un quartier un peu sulfureux.
Je me trompe ou c'est déjà quelque chose que tu nous avais dit à propos de Maison Close?
Oui, c'est un peu plus quand même osé que Maison Close. En tout cas, bon, le quartier s'y prête aussi et ça se passe uniquement dans des lieux en soi du commerce du sexe malgré tout. Donc malgré ça, on voit plus d'images sexuelles. C'est pas la même époque non plus. Donc à l'époque de la Maison Close, il n'y avait pas non plus tout ce qui était pornographie. Mais voilà, ça reste quand même assez sage. Ça reste des images assez léchées, très travaillées aussi et un petit peu arty par moments.
Fleur!
Vous m'attendez?
Tu t'en vas?
Oui.
Je voulais te parler. Je voulais te dire que... Voilà, ça fait des mois que je te suis. Des fois, je vais dans des cabines vidéo, je regarde des films, j'essaie de trouver une fille qui pourrait te ressembler. Je trouve jamais vraiment. Elles sont toutes... Je sais pas, les positions qu'elles prennent, c'est toujours les mêmes positions. C'est toujours les mêmes trucs. Je veux plus regarder de films de cul, Fleur. Je veux plus rentrer dans une cabine vidéo, je veux plus de tout ça. Alors je demande pas que tu m'aimes. Je sais qu'avec tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, c'est pas possible tout de suite, mais... Voilà, je voulais te demander si t'accepterais qu'on passe un peu de temps ensemble. Quand ça ira mieux.
Je quitte Pigalle, Guillaume. Je me casse d'ici. Lucien avait raison, j'ai pas voulu le croire, mais il avait raison. Faut partir avant qu'il soit trop tard. Toi aussi, tu devrais partir.
Attends, attends. Je l'ai prise pour toi, prends-la.
Je suis pas une fille pour toi, Guillaume. Voici, s'il vous plaît.
Vous voulez passer par l'intérieur ou l'extérieur? Madame.
Tout sauf Pigalle.
Le personnage qu'on vient d'entendre, c'est le personnage de Fleur. Donc Fleur, c'est une danseuse qui était amie avec Emma, donc elle travaille aussi aux Folies, et qui vient donc d'expliquer un peu cet envers du décor, que Pigalle, ben, c'est effectivement la fête, c'est effectivement de l'amusement, du sexe aussi, mais que à certains moments, Pigalle, ça peut aussi vous ruiner la vie, ça peut détruire votre couple. Dans cet extrait, d'ailleurs, elle explique qu'elle quitte définitivement Pigalle, puisque son petit ami se fait tuer, malheureusement bien malgré lui, parce que c'est un peu une sorte de dommage collatéral. C'est là qu'elle va commencer à prendre conscience de ce qu'elle a pu perdre en vivant à Pigalle. Elle a vécu depuis très longtemps là, elle est gogo, elle participe notamment aussi à des partous pour des familles bourgeoises qui viennent en fait la recruter, elle et son compagnon, pour animer plus ou moins ses parties fines. On voit durant cette saison en fait son compagnon qui progressivement a du mal à la voir aller avec d'autres hommes, a envie d'une vie un peu plus classique, qui lui demande en fait à partir. Au moment où elle se rend compte effectivement qu'il vaudrait mieux partir, malheureusement, son compagnon vient à être assassiné. C'est sur une note négative, donc elle quittera Pigalle. Elle aurait espéré au moins retrouver le corps, mais au moment où l'assassin en soi de son mari est découvert, eh bien, il se fait renverser par une voiture. Donc elle ne découvrira même pas jamais donc le corps enterré de son compagnon. Donc on voit que Pigalle, c'est pas non plus tout rose malgré tout. Il y a quand même des éléments un peu négatifs. Et alors c'est aussi lié, je pense, cet aspect un peu triste à l'histoire d'Alice, un des troisièmes grands axes de la saison. Une dame qui tient une mercerie en fait en plein quartier de Pigalle. Son logement, mais Nadir veut le racheter pour en faire une sorte de maison close en soi. Elle refuse au début et puis s'instaurera entre Nadir et elle une sorte de relation un peu au départ amicale, calme, mais toujours avec une sorte de crainte de ce que l'un ou l'autre pourra faire, parce qu'elle refuse, elle devant lui veut absolument à tout prix. Au départ, il va essayer de l'intimider, ça ne marche pas, elle va vouloir alors à ce moment-là lui rendre l'appareil, et ces deux personnages qui se cherchent durant toute la saison, c'est une histoire finalement assez sympathique, ça humanise en fait énormément le personnage de Nadir, qui en soi on se dit, bon ben, c'est quand même un être humain et qui a aussi des sentiments, qui peut se montrer bon malgré tout à certains égards. Elle va s'en rendre compte et alors là également va arriver le passé d'Alice. On va voir quelques scènes qui sembleraient être des scènes de rêverie ou de flashback, on ne sait pas trop où on en est. Moi personnellement, ça j'ai pas trop apprécié parce que je me demandais en fait ce qui se passait, pourquoi on avait ces scènes avec une petite fille, pourquoi on avait ces sortes de visions. On apprend que effectivement par la suite ça sera des scènes du passé en fait, ou plus ou moins arrangées, et que Alice joue un rôle aussi dans la disparition de Emma. Pour moi, ça a été le dernier épisode a été la goutte d'eau, parce que j'y ai pas cru, mais à aucun moment. Ce personnage d'Alice m'avait plu jusqu'aux 7 premiers épisodes, et puis alors, dans ce dernier épisode, on lui donne une sorte de passé trauma un peu bizarre, avec un ancien GI qui est de maintenant ouvreur dans un cinéma. Enfin voilà, moi ça, j'ai pas du tout acheté le truc, et ça m'a fait complètement sortir en fait de la série. Heureusement, c'était le dernier épisode.
En fait, ce personnage d'Alice est intéressant quand il symbolise le Pigalle qui n'est pas dans le monde du sexe. Moi, je trouvais c'était intéressant parce que il y a quand même tout plein de maisons, tout plein de commerces, tout plein de rues qui sont pas les rues chaudes de Pigalle. Mais c'est vrai, comme toi, je trouve que cet élément-là, c'est l'élément en trop.
En plus, bon, voilà, ces flashbacks sont un peu oniriques. La référence à Alice au Pays des Merveilles est grosse comme un éléphant, je vais dire. On a également cette image du miroir, de l'autre côté du miroir, dans l'appartement d'Alice. Enfin, voilà, ça, c'est des choses que moi, j'ai pas trop appréciées. Et ça m'a coupé un peu de cet aspect un peu réel que la série avait pu avoir pendant plusieurs épisodes, et cette fin, bah ok, ça clôture aussi l'histoire d'Emma par la même occasion. Là aussi, finalement, à certains moments, je me suis dit bon ok, tout ça pour ça en fait, est-ce qu'il fallait se prendre la tête à ce point-là pendant 8 épisodes pour arriver à une telle conclusion? Et ça renforce en fait ce côté complètement artificiel de l'histoire de Thomas et Emma. Pour la petite anecdote, on va aussi rencontrer une guest en la personne de Dani, la chanteuse, qui va être donc utilisée comme ancienne tenancière de bordel. On voit aussi des visages connus, notamment donc un des acolytes de Nadir, qui est interprété par Jasmine Bemaldi, qui a été un acteur français-maghrébin qui a joué dans plusieurs films, surtout d'auteurs. Si je parle de lui aussi, c'est qu'en fait la série lui est dédiée parce que à la fin du tournage, en fait, de Pigalle la nuit, sur le retour de la de tournage, il a eu un accident en fait, et il est décédé, donc ils lui ont dédié également la série. Comme on le disait, pas de deuxième saison pour Pigalle la nuit. Ça a été une décision un peu surprenante parce qu'elle avait été annoncée, cette deuxième saison. La pré-production avait commencé, beaucoup d'intermittents avaient déjà aussi commencé à travailler, et à une semaine du tournage, Canal a annulé. Alors évidemment, ça a fait un petit tollé auprès des intermittents du spectacle. Hervé Admar et Marc Herpoux l'ont eu assez mauvaise, un peu en travers de la gorge. Ils ont trouvé que c'était une des manières de fonctionner qui n'était pas professionnelle de la part de Canal+. Je crois que Canal+, a simplement réfléchi, peut-être trop longtemps effectivement, mais s'est dit qu'au bout d'un moment, ça aurait tourné en rond. On avait fait le tour de Pigalle, on avait vu tout ce qu'il y avait, je pense, à voir à Pigalle, et les histoires étaient bouclées, et les histoires n'étaient pas ce qu'il y avait de plus intéressant. Donc repartir sur un même lieu avec à nouveau des histoires différentes, mais si elles n'étaient pas non plus intéressantes, ça n'en valait peut-être pas la peine.
Et bien voilà, c'est là-dessus qu'on va refermer ce dossier. Merci Tillman, merci Sarah, et à très bientôt pour un prochain dossier de Frontières des Séries.
Retrouvez aux Frontières des Séries sur le web www.afds.tv.